suis entré tout à l'heure avec ce seau.
Et quelqu'un m'a dit, il ne m'a pas dit tu vas faire le ménage, il m'a dit tu as un besoin urgent. Alors si vous êtes là jusqu'à la fin du message, vous saurez pourquoi ce seau est là. Voilà. Alors, je vais continuer ce périple pour ceux qui nous visitent, qui sont de passage. Sur une année, j'ai eu à cœur de prêcher sur la vie de David. Et puis là, il me reste 4 mois avant de terminer mon ministère officiel dans la communauté. Donc, il faut que j'accélère un petit peu. Et j'avais absolument envie, et impérativement, d'utiliser le seau, mais de pouvoir encore aller un petit peu dans les psaumes. Et vous savez que David a écrit quasiment la moitié des psaumes, sur les 150 psaumes. Alors, il y a abondance de matériaux, il y a une telle richesse. Par où commencer, ça donne le vertige. Et finalement, j'ai eu à cœur de prendre un psaume en particulier, qui est très long, 51 versets. Et donc j'ai dû le fractionner, je vais donner aujourd'hui une deuxième étape, et puis il y en aura une troisième et dernière. C'est le psaume 18 et c'est 2 Samuel 22. Ce sont les mêmes textes à quelques mots près. Donc j'espère que ça vous fait envie et plaisir. Parfois c'est rude cette vie de David à étudier. J'espère qu'on en retire le bénéfice maintenant. On a vu toutes sortes d'épisodes, parfois c'est glorieux, parfois on se dit mais c'est pas possible qu'un homme selon le cœur de Dieu puisse faire des âneries pareilles, puisse être aussi aveugle dans sa propre famille. Il n'a rien vu venir, ses fils se sont révoltés contre lui, c'est assez déroutant cette histoire de David. Et en même temps, Dieu a aimé David et a exercé sa grâce. Et dans ce psaume 18, ou 2 Samuel 22, l'élément qui me touche le plus, peut-être, c'est le fait qu'on a l'impression que c'est arrivé au soir de sa vie, que David, en regardant dans le rétroviseur, peut constater il y a eu des choses magnifiques, il y a eu des vallées de larmes, et Dieu a toujours été là. Et ça m'interpelle déjà en me disant, mais quand j'arriverai là, j'arrive à la retraite, c'est une étape importante, mais ce n'est peut-être pas la fin de la vie encore. Je crois qu'il y a toute une saison encore. Je vais entrer normalement dans l'automne de la vie, puis il y aura peut-être l'hiver de la vie, ça c'est encore moins marrant, sauf si on a une excellente santé, mais on verra. Un jour à la fois. Mais j'ai envie de dire, comment est-ce que moi je vis les choses et arriver déjà à cette étape, est-ce que je peux retirer des éléments substantiels de ce psaume, de ce passage de 2 Samuel 22. Et voilà, c'est l'invitation à laquelle je vous invite pour vous-même. Et chacun va pouvoir examiner son cœur, mais j'ai confiance. Alors, il y a là des choses sur lesquelles je vais m'arrêter assez brièvement. Je pourrais en parler pendant des heures et je n'ai pas sûr d'avoir tout saisi encore, mais on va voir l'essentiel. Dieu est mon rocher où je me réfugie, mon bouclier est la force qui me sauve. 2 Samuel 22, 3. Une chose m'a arrêté, la force qui me sauve. Il y a un prédicateur français réformé, Alphonse Maillot, qui a traduit ça, « Dieu est l'arme de ma victoire ». Littéralement en hébreu, c'est la corne de mon salut. Ça fait référence au taureau, la puissance du taureau. Avec les cornes qui sont là, c'est utilisé symboliquement dans la Bible aussi par rapport à la force, la puissance politique et militaire. C'est le prophète Daniel qui donne ces images. Donc, ça m'a frappé parce qu'à la fois, il y a cette dimension d'armes défensives, on peut dire, que Dieu va mettre à nos dispositions, mais aussi des armes offensives. D'abord, par rapport à la défense, image de rocher que je suis allé prendre sur Internet. Le rocher, c'est une image de stabilité, d'assurance qu'on peut avoir. Dans un monde où tout semble vaciller, l'économie, on ne sait pas trop où ça va, la Grèce, l'Europe, On est un peu dubitatif. Il y a toujours l'ultimatum, de l'ultimatum, de l'ultimatum, du dernier ultimatum, puis cette fois. Puis on se dit, mais attends, mais on ne sait plus où on en est. Qui nous dirige? Où est-ce qu'on va? Enfin, c'est peut-être ma réflexion. Peut-être que je suis à côté de mes pompes, mais voilà. Alors, rocher, image de stabilité, de fondement inébranlable. Et Dieu est le rocher des siècles. Donc ça, ça fait quand même plaisir, non? Il y a aussi l'image du bouclier, qui est un symbole de protection, hein, entre les ennemis et nous. Et quand on peut prendre un bouclier, oh, puis que ce bouclier, c'est Dieu, hein, l'ennemi, il doit s'en aller. Alors si c'est juste une formule religieuse, ça ne jouera pas. Hein. Dans la vie de David, si vous lisez le psaume, c'est en relation avec l'authenticité de sa relation avec Dieu. On n'est pas sur le domaine religieux. Hein. Il ne suffit pas de mettre un crucifix dans sa chambre. Ce n'est pas ça qui va faire fuir le diable. Mais c'est ce cœur à cœur avec Dieu dont Déborah a souligné la dimension tout à l'heure. Alors, image de du bouclier, protection, de salut aussi. Et puis, cette corne, cette force qui me sauve. C'est au-delà de simplement se défendre, c'est aussi prendre position. Et là, je pensais tout simplement, on a nommé le casque du salut, c'est difficile des fois de comprendre l'image du casque du salut, pourtant c'est une pièce importante de l'armure, parce que le diable, comment est-ce qu'il va nous attaquer? Ben, c'est au niveau des pensées. Et s'il a la maîtrise sur nos pensées, on est cuit. On va être dans la défaite spirituelle, on va être découragé, on ne saura plus où sonner, on va être dans l'angoisse, ça va être quelque chose de terrible. Il y a quelqu'un qui nous appelle là? C'est rien, d'accord. Et je pense que c'est bien si on se protège au niveau de nos pensées, si on refuse de maintenir ces pensées dans notre cœur, mais c'est aussi bien d'aller plus loin. Et ceux qui ont fait le cours Vive Libéré, ça me rappelle cette fameuse prière des 4 R, qui est en fait Jacques 4, 7, de reconnaître dans le fond que peut-être qu'on laisse trop de place à la tiédeur, on n'est pas si rigoureux dans nos disciplines. Seigneur, je te demande pardon. Parce que la vie du disciple en Christ, c'est pas ça, c'est pas de subir simplement, avec les bras ballants, puis on est dans la défaite. Hein, sans entrer dans le triomphalisme excessif, on est d'accord. Mais voilà, reconnaître, et puis résister, ça c'est magnifique, on résiste. Non, stop! Je refuse de continuer de cultiver des pensées de dévalorisation, de culpabilisation. Vous savez que ça c'est un cancer qui ronge l'âme du chrétien. Je refuse de continuer de croire que je suis nul, que je ne vois rien du tout, que les autres chrétiens sont bien meilleurs que moi. Puis le pasteur, il parle tellement bien, puis il connaît sa Bible par cœur. Moi, je suis nul de nul. Je trouvais super que Déborah dise ce matin, ben voilà, j'ai eu un temps très difficile, j'avais plus le temps pour lire la Bible, pour prier. Je ne vous recommande pas ça, mais voilà, elle était authentique. Hein? C'est le cœur à cœur, la simplicité des enfants. Elle a continué d'aimer le Seigneur, puis elle sait que le Seigneur l'a aimée. Alors voilà, donc résister et remplacer par des paroles valorisantes. Là, il y a plein de promesses dans l'Écriture qui nous donnent de l'assurance. Mais c'est encore une fois pas un truc. Et c'est nécessaire là, de prendre du temps sérieusement avec Dieu, de dire, mais Seigneur, tu vois, la détresse dans laquelle je suis, je me sens envahi par des pensées qui me submergent. Ça me décourage tellement et je tombe dans la dépression, j'en peux plus. Et puis peut-être qu'il faut faire une démarche avec un frère, une sœur, avec laquelle ou lequel on est dans une dimension de confiance. Dire, j'en peux plus, est-ce que tu es d'accord de prier pour moi? Même au téléphone. Il y a des gens qui téléphonent à des guérisseurs quand ils ont des brûlures. Oui, il y a plein de choses comme ça. Bon, Jacques, c'est shoot, tu réagis tout de suite, c'est bien. Mais peut-être qu'on en parle mercredi au café. Hein. C'est pas grave, c'est chou, c'est que t'es à l'aise, c'est bien. Alors voilà, ça c'était l'introduction. Juste pour donner un petit peu le cadre. quand on est sur le glacier d'Aletsch, il y a un tunnel. On a pris ce tunnel, puis je me suis dit, voilà, ça représente pour moi beaucoup de choses quand on est comme dans un tunnel, envahi de ténèbres. Mais voilà, il y a de la lumière en Christ. Hein? Christ qui est la lumière du monde. Et David avait déjà expérimenté ça dans l'Ancien Testament. De Samuel 22, 29, c'est toi qui es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Immédiatement a jailli dans mon cœur un autre psaume. Je ne peux pas résister, il ne faut pas trop que je m'égare. Hein. Mais David a écrit un autre psaume à cet égard. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur ? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et vous avez compris que dans l'Écriture, ce n'est pas forcément une guerre comme on peut en voir aujourd'hui entre des armées qui se battent, ça peut aussi être le cas, mais hein, ce n'est pas une guerre civile à proprement parler. Mais spirituellement parlant, on peut être dans des luttes et dans des guerres, et on a besoin de l'éclairage du Seigneur. J'étais très touché avec Jean-Paul cette semaine, on a visité Paul à Gieron. Vous savez, ça fait 5 mois d'hospitalisation, il y a toujours une infection, elle a failli mourir, c'était un début de septicémie, elle attend toujours une opération, il y a des complications avec l'assurance, les assurances, ça coûte cher aujourd'hui d'hospitaliser des gens si longtemps, il y a eu déjà plusieurs interventions. Et puis elle est dans des luttes, des combats impressionnants. Et elle m'a dit, mais elle nous a dit, c'est magnifique parce que le Seigneur m'a placé dans une chambre, là, à Féchy, où il y a un tableau en face de mon lit et on voit un petit enfant qui se réfugie dans les bras de son père, enfin sur la poitrine de son père, et son père le serre contre lui. J'ai trouvé ça, sans vouloir faire le jeu de mots facile, lumineux. Pour dire, mais dans le fond, on a besoin de la lumière du Seigneur, c'est-à-dire de révélation. C'est bien qu'on ait fait du catéchisme. C'est bien qu'on vienne au culte, je vous félicite. Mais si c'est pour, dès qu'on sort de la salle de culte, de nouveau être complètement démoralisé, il me semble que le Seigneur a quelque chose de plus. Mais je le dis en tremblant, parce que ça m'arrive aussi d'être dans le désarroi. Et on a besoin de cette lumière-là. On peut se mettre à genoux dans le secret de nos cœurs, de notre chambre. On peut crier à Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Tu as donné des promesses, et Jésus est la lumière du monde. Hein, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On peut apprendre par cœur des promesses, on peut peut-être les dire à voix haute dans nos luttes et dans nos combats. Et ce n'est pas une formule magique, mais le Seigneur entend. Il est un Père bienveillant. Voilà, il faut que j'aille plus loin, parce que sinon je ne vais jamais arriver au bout avant 1h30. Alors, on va aller dans cette dimension que j'ai appelée à l'assaut, avec des images de boucliers. Il y avait le petit bouclier, le grand bouclier. Le petit bouclier est 2 fois plus petit que le grand, ou le grand 2 fois plus grand que le petit. Ça dépendait des circonstances. Le petit bouclier, c'était souvent les cavaliers qui l'utilisaient. Le grand bouclier, c'était les forces, les troupes d'élite, où on se protégeait complètement, totalement. Il y a des images là extraordinaires, je n'ai pas le temps de tellement les développer. Mais on va lire ce texte, quand je dis « à l'assaut » dans 2 Samuel 22, versets 30 à 37. « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui prépare parfaitement mon chemin. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait tenir sur les hauteurs. Il exerce mes mains à la bataille. » Hein, image de la prière là aussi. Et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut et ta mansuétude, c'est ta bienveillance, ta bonté. Me fais devenir grand. Tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Et on a essayé de comprendre ces paroles en essayant de revisiter la vie de David, et certains commentateurs pensent, en particulier lorsque David a pris Jébus, la ville de Jérusalem. sous Josué, normalement, la conquête aurait dû s'effectuer. C'était une place importante, Jébus, qui va devenir Jérusalem. Et 400 ans après Josué, eh bien, David, lui, a réussi à prendre cette forteresse. Et c'était sur le sommet d'une montagne, la colline de Sion, 800-900 mètres d'altitude. Pour nous, par rapport aux Servins, ce n'est pas grand-chose. Au Moyen-Orient, ça représente quand même un promontoire pas évident à gérer quand des ennemis veulent venir. Alors, David a réussi, il a pu conquérir avec ses soldats. Hein? Et ça, c'était quelque chose d'important. Et encore une fois, ces textes comme ça peuvent nous heurter hein, quand on lit l'Ancien Testament et on peut se dire comment intégrer ça dans nos vies. Eh bien, ça illustre les combats spirituels dans lesquels on peut être comme disciples de Jésus. Et nous avons des combats. J'ai dit pour Paula ce qui se passait. Et ces forces du mal sont personnifiées ici par les ennemis de David. Alors, je trouve intéressant par rapport à la lumière, il faut que Dieu nous donne des éclairages. Et là, j'ai été interpellé pour moi-même au Kingdom Festival par le saut. Une histoire assez étonnante qu'on a entendue, et elle est suisse, ça j'aime bien. Il y avait des orateurs d'ailleurs, ils ont donné des témoignages incroyables. J'ai bien aimé le témoignage là. Suisse, je me sentais mieux dans ma culture, dans mon contexte. Et voilà qu'un homme qui s'appelle Christian Kuhn, qui est secrétaire du réseau évangélique, a eu un problème avec un bras, il a dû être hospitalisé. Bon, il a demandé à plein de gens de prier pour sa guérison, pour ne pas avoir besoin de l'opération. Voilà, ben Dieu n'a pas guéri et il a été hospitalisé. Et il se retrouve dans la chambre avec un homme, dans la vallée de la Broye, tout ça. Et cet homme a envie de parler et lui dit qu'il est guérisseur. Il a le secret pour guérir les brûlures. Je ne sais pas comment est-ce que vous auriez géré ça comme chrétien. Peut-être vous auriez tiré le drap et la couverture, un guérisseur.
C'est pas bien un guérisseur.
C'est pas bien un guérisseur, ben écoute, ça dépend de quel côté on se penche. Un guérisseur, lui, il a l'impression de faire du bien, de guérir des gens, mais il manipule des puissances qui le dépassent et qui ne sont pas celles de Dieu. Un don de guérison, ça vient du Saint-Esprit, et c'est au nom de Jésus, et c'est différent. Toute la gloire est donnée à Dieu. Alors voilà, ben Christian Kuhn, il a dit, ben Seigneur, je comprends un peu mieux pourquoi tu ne m'as pas guéri, et que tu m'as amené dans cette chambre, et que tu as placé ce guérisseur avec moi. Je ne sais pas si c'est ce que vous auriez dit, vous. Moi, ça m'a interpellé. Et puis voilà que cet homme lui explique comment ce don efficace des gens quand ils sont gravement brûlés, même les hôpitaux ont son nom sur leur liste quand ils ne peuvent plus rien faire, puis instantanément les gens sont guéris de leur brûlure. Et voilà. Et cet homme se fait opérer. Et la suite de l'opération est très difficile. Cet homme n'arrive plus à uriner. Et c'est violent. Hein. Bon, il n'y a pas que des hommes dans la salle, mais quand on a des problèmes de prostate, de calculs rénaux, ces machins comme ça, ben, c'est pas marrant. Bon, on a l'exclusivité de la prostate pour les hommes, mais pour les calculs rénaux, tout le monde peut en être atteint. Horrible cet homme, dans des souffrances, il appelle les infirmiers, les médecins, personne ne peut lui aider. Et Christian Kuhn prie, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cet homme ? Tu m'as placé là, je crois, dans cette chambre avec lui. » Et finalement, il reçoit une conviction. Et il dit à cet homme, « Tu as le secret des brûlures, moi j'ai le secret du pipi. » Et au nom de Jésus, je libère ta vessie pour que tu puisses uriner. Et il nous a dit, c'était incroyable, cet homme s'est sorti de tous les côtés, il a fallu appeler les infirmières là, avec des pampers et tout. Cet homme a retrouvé un jet comme quand il était adolescent. Et il était complètement stupéfait. Au point, après coup, dès que tout ça a été réglé, le problème technique, il a dit, mais c'est incroyable, mais d'où tu as cette puissance, mais je n'ai jamais vu ça. Et Christian Kuhn, il a parlé de Jésus, il a annoncé l'évangile, et cet homme a été interpellé. Et il a commencé un cheminement avec Dieu, sérieusement, et Christian Kuhn a dit, dès que je pourrais reconduire, parce qu'il avait toujours une attelle à son bras, il a dit, je vais aller trouver cet homme, j'ai gardé le contact pour cheminer avec lui. Et pour moi, ça, quand je lisais ce texte, et je me disais, mais comment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire avec des paroles aussi difficiles? Je me disais, ben voilà. On peut être offensif aussi, pas seulement défensif, pas seulement dire, c'est bien de se dire, mais Seigneur, garde-nous, voilà. Peut-être il y a des gens là autour de nous, ils pratiquent l'occultisme, protège-nous. On se met sous la protection de ton sang. Mais j'ai l'impression que le Seigneur peut ouvrir encore d'autres dimensions. Hein? Tous, on a envie de se défendre, c'est normal, on a peur. C'est tout à fait humain, c'est logique. C'est du bon sens. Mais je crois que Dieu ne veut pas qu'on se cantonne juste complètement serré entre quatre murs, puis c'est fini, c'est cuit, on est paralysé, on ne peut plus rien faire. Waouh! Les armes offensives. Ok? Ça va comme ça? Alors, dernier point. C'est interdit au moins de, je ne sais pas quel âge, je vais mettre le carré blanc. C'est épouvantable, la suite du texte. Je vais quand même vous la livrer pour un culte, ce n'est pas terrible, je sais. Mais on va quand même... voilà. 2 Samuel 38 à 43, je n'ai même pas osé mettre la suite. Vous la lirez pour vous-même, ça c'est un truc pour vous faire lire le texte. « Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. » Où est l'amour du prochain, là? Bon, on est dans l'Ancien Testament, c'est encore le régime de la loi, on est d'accord. Et puis encore, le régime de la loi de l'Ancien Testament, il ne voulait pas qu'on se mange contre, comme ça facilement, il fallait en tout cas pas le faire à la légère. « Je les extermine, je les pourfends, et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. De mes ennemis, tu me livres le dos, je réduirai au silence ceux qui me haïssent. Je les pulvérise comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. » C'est pas mal, hein? Et bien sûr, avec David, il y a cette dimension dans laquelle on peut entrer, cette dimension messianique. Hein? Jésus, fils de David! Donc, en esprit, David prophétise inconsciemment, sans doute, sur un plus grand que lui-même, sur le véritable roi d'Israël, qui un jour va triompher de tous les ennemis, de l'injustice, de la méchanceté, de l'orgueil, de tout ce qui est destructeur sur cette terre. Et même si Dieu vise le salut des nations, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Il n'empêche qu'il y a sur cette terre, et encore actuellement, et jusqu'à la fin du temps, jusqu'au retour de Jésus, des nations qui... essaye quand même, il y a une certaine sensibilité à l'Esprit de Dieu. Il y a des réveils par-ci, par-là. Et puis il y a des nations, comme ça a été le cas il y a quelques décennies avec l'Albanie, où on avait banni Dieu absolument. Et puis on était entré dans, comme pour les ennemis d'Israël, hein, les Philistins, et Amoréens, etc., dans des pratiques idolâtres, on sacrifiait des enfants. Et tout, c'est des choses, le cœur de Dieu ne peut pas rester insensible. Et il y a tellement d'injustices sur cette terre, des choses qui nous dépassent. Je reviens à la situation de la Grèce très brièvement. Ben on sait qu'il y a une corruption énorme. Ça fout la trouille de leur donner encore des milliards et des milliards. Où ça va passer? Puis en même temps, si on ne fait pas ça, c'est peut-être encore pire. Mais le simple retraité en Grèce qui voit sa pension de retraite diminuer de moitié ou de trois quarts et tout, mais il y en a qui se suicident et tout, ça fait mal. Il y a une injustice et il faut bien, à un moment donné, que cette injustice soit réglée. Et un jour, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et Dieu est amour avec un immense A, je l'ai prêché hier pour le mariage. Mais il est aussi un Dieu saint, un Dieu de justice. Alors vous voyez, quand on commence à entrer dans ces dimensions-là, ces textes, au lieu de nous effrayer, nous ouvrent d'autres perspectives en Jésus-Christ. On est d'accord. Et David n'a jamais essayé de prendre le pouvoir par la force, par la ruse envers Saül. Il n'a jamais voulu toucher Saül. Il aurait pu le faire, il aurait pu le tuer. Il a respecté celui qui était loin de l'Éternel, qui avait reçu l'onction de l'Éternel. Il est allé se battre contre les Philistins, mais il a entendu le Seigneur lui dire ça clairement. Mais il n'y avait pas de désir de vengeance de la part de David. Alors vous voyez, c'est cet équilibre entre un cœur droit, la justice, La sainteté, bien sûr, David vivait dans son temps, dans son contexte, de l'Ancien Testament. Et il était un homme comme nous, il était aussi pécheur. Mais si on voit en filigrane de ces textes, ces pensées prophétiques, alors je crois que c'est magnifique. Voilà, très très brièvement, c'est ma conclusion. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Comment ces textes nous rejoignent ? Personnellement, je ne vous cache pas que j'étais excessivement béni en pouvant approfondir ces pensées dans mes propres luttes, dans mes propres combats. J'en ai énormément cette année qui sont liées à toutes sortes de choses, de circonstances, peut-être même à la retraite. Ce n'est pas très simple d'arriver à la retraite. J'ai commencé à débarrasser tous mes bouquins ces dernières semaines. Purée, j'en ai des centaines et des centaines. Bon, j'en ai quand même gardé 200 ou 300, mais ça me fait mal. Alors voilà, je me suis dit, mais mes amis, mais Paul, dans sa prison à Rome, il devait lire les psaumes, il devait se plonger dans l'histoire de David. Il a pu puiser cette révélation, le Saint-Esprit a conduit aussi, par rapport à Éphésiens 6. Je ne peux pas commenter ça, mais ces armes, cet équipement, nous sommes exhortés à revêtir toutes ces armes, à mener le bon combat. Alors, mes amis, je ne sais pas où vous en êtes dans vos luttes personnelles, dans vos combats. Mais j'aimerais vous proposer la chose suivante. On va chanter un cantique. On n'a pas lu ces versets 17 à 20. Jour de joie, jour de victoire. On va se lever pour ça. Et puis si, après ce chant, il y en a certains qui veulent exprimer une pensée, une prière, que ce soit de louange, de détresse, des larmes, et qu'on se laisse conduire par le Seigneur. Tu viens, Déborah, avec ce cantique, c'est quoi, le 442, je crois, c'est ça ? Ou bien tu as la liste. Vous êtes d'accord de vous lever et on chante ce chant, non pas que ce n'est pas triomphaliste, mais comme une parole de foi. Et je crois que si on est au fond de Dieu, on peut avoir la liberté d'entrer dans ces paroles. C'est les versets 10, 17 à 20 du psaume 18 et de 2 Samuel 22.